RCF.
Je pense, donc j'agis. Une émission présentée par Melchior Gormand.
Et c'est aujourd'hui la dernière émission Je pense donc j'agis de la saison dédiée à l'écologie et on vous propose à cette occasion de faire des plans sur la comète et d'inventer le monde de demain, rien que ça. Et vous le savez, qui dit écologie sur RCF dit aussi Anne Kerléo. Bonjour Anne.
Bonjour Mathieu, bonjour à toutes et à tous.
Vous restez avec moi à l'antenne pendant 2 heures exceptionnellement jusqu'à 11 heures.
Oui, et comme le défi est d'envergure, on ne sera pas trop de deux, et puis surtout, nous ne serons pas seuls. En fait, on a voulu mettre cette émission sous le signe de la joie, de l'espérance, de la conviction d'un avenir possible. Car c'est vrai que parfois, au cours de l'année, dans cette émission, mais aussi en général, en scrutant le monde avec lucidité, en essayant de le comprendre, de le décrypter, eh bien, on a pu être parfois découragés, et sans doute aussi les auditrices et les auditeurs avec nous. Alors aujourd'hui, on a vraiment envie de se dire que tout n'est pas perdu et de le prouver.
On a donc invité des personnes qui ont des convictions, des idées parfois originales, novatrices, des projets et puis surtout de l'énergie. Et la plupart de ces invités sont déjà venus dans Je pense donc j'agis cette année et nous leur avons tout simplement proposé de revenir avec chacun et chacune un projet concret, une idée concrète pour inventer le monde de demain. Et jusqu'à 11h, vous allez les entendre, ces différents projets, et nous pourrons échanger tous ensemble également avec nos chroniqueurs, François Mandil et Adrien Louandre, et bien sûr avec vous toutes et tous, c'est la base de l'émission. Venez réagir aux idées, projets, propositions de nos invités, venez aussi nous faire part des vôtres. On vous attend au 04 72 38 20 23 et par mail à direct@rcf.fr.
Jusqu'à 11h, je pense, donc j'agis sur RCF.
Et d'habitude, le jeudi, on commence par la chronique « Tout est lié ». Eh bien, pas de chronique aujourd'hui, mais nos chroniqueurs sont pourtant bien là. Adrien Louandre nous rejoindra à 10h pour la seconde partie de l'émission, que ce soit en studio ou à distance. Et puis François Mandil est avec nous dès maintenant. Bonjour François. François Mandil, qu'on va retrouver dans un instant, on est en train de se connecter avec lui. Il va pouvoir réagir pendant l'émission aux idées, aux projets qui nous seront présentés pendant cette première heure d'émission par 4 personnes, 4 invités, Anne.
Oui, des personnes au profil très différent, mais tous et toutes ont en commun d'avoir conscience de l'urgence écologique et de s'engager pour un avenir juste et durable, chacun et chacune à sa manière. Alors, on vous les présentera au fur et à mesure de l'émission. Mais d'ores et déjà, je peux vous dire que sur les 2 heures, on aura à la fois des acteurs associatifs, une climatologue, des chrétiens engagés pour l'écologie. Chacun, chacune vient donc avec une idée ou un projet pour un monde plus juste et durable.
Et avant d'accueillir notre premier invité, même s'il n'y a pas de chronique aujourd'hui, j'aimerais bien vous entendre, François Mandil. Je crois qu'on vous a retrouvé. Vous êtes là ?
Oui, bonjour.
Eh bien, bonjour François. Alors, à votre avis, faire ce qu'on va faire pendant 2 heures ce matin, rêver l'avenir, rêver de l'avenir, partager des projets, c'est utile pour vous ?
C'est non seulement utile, je pense que c'est fondamental. On a besoin de se projeter dans l'avenir et d'imaginer un avenir qui soit désirable, parce que je pense que c'est possible et que de toute façon, si on ne peut pas se projeter dans l'avenir, si on ne peut pas inventer des nouvelles solutions, effectivement, on a envie de baisser les bras. Or, je pense que, notamment, je pense donc j'agis, participe à ça et à se dire, en fait, on peut imaginer un avenir différent, un avenir meilleur, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, sinon, globalement, l'avenir peut paraître sombre. Ben, à nous de l'inventer.
Et alors, c'est le débat qu'on a souvent eu dans cette émission entre les gestes individuels et l'action collective. À votre avis, finalement, quelle est la place de chaque auditeur, chaque auditrice en tant que citoyen, citoyenne ? Comment il peut avoir un impact ? Et est-ce qu'il peut ou est-ce qu'elle peut avoir un impact ?
Alors, bien sûr, en fait, il y a plein de façons d'avoir un impact. La première, c'est déjà de se former. Vous avez peut-être vu, il y a des chercheurs du GIEC qui sont allés former les députés, en tout cas ceux qui ont accepté, parce que même nos députés ne sont pas bien au courant de ce que c'est que la réalité des changements climatiques, de l'effondrement de la biodiversité. Et rien que déjà se former, apprendre, c'est fondamental. Alors, effectivement, il y a les petits gestes du quotidien qui sont importants. C'est pas suffisant, mais c'est important. Moi, je suis allé à vélo au boulot. Désormais, vous voyez, j'habite en zone rurale, je vais en vélo à boulot. Et c'est pas suffisant. Si tout le monde va à vélo, d'abord, tout le monde ne peut pas, mais si tout le monde y va, ça ne suffira pas. Mais c'est déjà une première chose. Et puis après, il y a, en étant formé, en étant au courant de la situation, eh bien, il y a la possibilité d'aller faire du plaidoyer, d'aller discuter avec ses élus, d'aller faire pression sur les entreprises qui ont un impact énorme, parce qu'on sait que il faut des actions collectives pour faire avancer. Les actes individuels ne suffisent pas. Mais en étant des auditeurs et auditrices assidus de Je pense donc j'agis, eh bien, ça permet d'être au courant et d'avoir des pistes d'action pour ensuite faire pression quand on vote ou auprès des gens qui sont élus pour permettre cette conversion écologique de la société.
Alors, puisqu'on essaye de parler aujourd'hui de joie, d'espérance et de se projeter de manière dynamique et enthousiaste vers l'avenir, pour vous qui êtes un militant de longue date de l'écologie, comment on fait pour continuer d'espérer? Enfin, comment vous faites, vous, face au décalage entre cette urgence écologique et l'inaction assez criante jusqu'à présent face à cette urgence?
Je crois que c'est Gramsci qui disait pessimisme de l'intelligence, optimisme de la volonté. D'abord, en tant que acteur chrétien de l'écologie, d'abord il y a l'espérance. Mine de rien, c'est important, cette confiance et cette espérance, ça c'est une première chose. Et puis, je crois que pour éviter de baisser les bras, en fait, le fait d'être même un tout petit peu acteur et de s'engager permet d'avoir une prise sur la réalité, d'être un peu, de pas être complètement transporté, baladé, de ne pas savoir quoi faire. En fait, juste le fait d'être un peu acteur nous aide à tenir le coup, parce que au moins on a un bout de responsabilité et donc ça permet de garder de l'optimisme. Et puis après, bah on peut aussi regarder en arrière le chemin qui a été fait. Alors bien sûr, c'est pas suffisant, hein, mais moi je me souviens que j'étais professeur d'histoire-géographie en 2002 au moment du sommet de la Terre à Rio de Janeiro, et j'avais des secondes et qui avaient fait un exposé sur le sommet de la Terre. Et à l'époque, la plupart des élèves n'étaient pas au courant, ne savaient pas trop bien, mais il y en avait quelques-uns qui avaient fait un exposé. Bon, aujourd'hui, les élèves de seconde sont tous sensibilisés, ils connaissent, et un certain nombre vont dans la rue. On peut aussi évoquer le fait que il y a des groupes de députés écologistes, qu'il y a des villes qui se mettent aujourd'hui de plus en plus à mettre en place des politiques écologistes contre la voiture, par exemple, ou pour des modes de déplacement doux, etc. Donc, on voit malgré tout des choses avancer, et puis il y a malgré tout un exemple qui est intéressant, qui est celui de la lutte contre le trou de la couche d'ozone. Vous savez que à une époque, l'utilisation de certains gaz faisait des trous dans la couche d'ozone. Eh bien, les États ont réussi à se réunir et à prendre des réglementations internationales, et ça a marché. Les trous dans la couche d'ozone sont en train de se résorber. Alors c'est beaucoup plus facile que pour le changement climatique, mais en tout cas, ça veut dire que c'est possible. Les États sont capables de prendre des décisions ensemble pour faire des lois qui protègent l'environnement.
Merci François Amandil de nous accompagner. Vous êtes notre fil rouge hein, de cette première heure, et vous aurez l'occasion de réagir aux différentes propositions et idées de nos invités. Justement, Anne, on va pouvoir accueillir notre première invitée de l'émission.
Oui, elle s'appelle Lorraine Lolo. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice générale de l'association Cité des Chances que vous avez cofondée. C'est une association qui a pour but de démocratiser l'engagement citoyen des jeunes des banlieues et des quartiers populaires. Vous êtes étudiante en sciences politiques et élue municipale à Fosse dans le Val d'Oise avec une délégation à l'environnement et à la citoyenneté. Alors, avec quelle proposition êtes-vous venue ce matin ?
Alors évidemment, ma proposition, ça va être de développer l'implication citoyenne, et en fait de développer la conscience politique via la sensibilisation, parce qu'en fait aujourd'hui les élèves ils ont des cours d'éducation morale et civique, mais on remarque d'une part souvent ça saute au profit des cours d'histoire géo, parce que notamment il y a des examens, il y a un programme chargé, mais en plus comme c'est théorique, généralement, ça provoque pas des des vocations d'engagement folles tout d'un coup, et surtout ça règle pas les inégalités qu'il y a dans l'engagement. En fait, on remarque qu'il y a plus des jeunes qui sont assez privilégiés, on va dire, d'un milieu social assez aisé, qui vont plus s'engager que les jeunes de quartiers populaires. Et nous, c'est pour ça qu'on a créé l'asso. Et en fait, pour pouvoir agir notamment sur l'écologie et surtout auprès des jeunes, il faut que tous les jeunes s'impliquent et tous les jeunes développent en fait leur conscience politique, leur conscience citoyenne, et qu'ils prennent à bras le corps en fait leur citoyenneté et agissent et fassent entendre leur voix, que ce soit dans les médias, dans la rue, mais aussi en politique, parce que on remarque en fait que ce soit en France ou dans le monde, il y a très très peu d'élus et de encore moins de députés d'ailleurs, vu qu'on en parlait, qui sont jeunes, en tout cas qui ont moins de 30 ans. Il y en a petit à petit qui font leur entrée à l'Assemblée, et tant mieux, mais il y en a pas encore assez. Et quand on regarde ces jeunes-là, justement, ils viennent souvent de milieux sociaux assez aisés. Donc du coup, moi, ma proposition, en fait, c'est tout simplement de développer l'intérêt pour la politique, pour pouvoir sortir de l'éco-anxiété et du désintérêt. Parce que, en fait, cette éco-anxiété, ce désintérêt, ça peut produire notamment de l'individualisme, en fait, parce que en fait, quand on sait pas comment on va manger demain, pour caricaturer un peu le propos, on a un peu du mal à penser à l'avenir de la planète, l'avenir des générations futures, etc. Mais justement, la politique, c'est un moyen en fait d'agir déjà sur qu'est-ce qu'on va pouvoir manger demain, surtout quand on regarde que quand on observe que la biodiversité, etc., se dégrade, du coup ça permet en fait de tout simplement retrouver espoir et retrouver aussi confiance en nous et en nos capacités. Donc nous, vraiment, on milite pour que les jeunes soient formés via la pratique, et vraiment pas que via la théorie, même si c'est important, qu'on diversifie notre classe politique, qu'elle soit plus représentative des gens, en fait, tout simplement, et que tout le monde retrouve sa place de citoyen.
Et si on vous entend bien, Lorraine Lolo, ça passe par ce que vous faites, vous, par exemple, avec Cité des Chances, que peuvent faire d'autres, mais ça passe aussi par l'école. Il y a des choses à réinventer, à faire bouger, là.
Oui, parce qu'en fait, l'école, pour nous, en tout cas, c'est censé être l'endroit où on résout un peu les inégalités. Et là où on peut un peu créer une espèce de page blanche et de socle commun pour tous et toutes. Donc pour nous, en fait, on milite pour ce que nous on fait à l'échelle associative, avec nos petits moyens, avec nos petits bras, et ce soit fait en fait à l'échelle nationale, pour pouvoir créer une nouvelle génération engagée, pour régler un peu les problèmes d'abstention aussi, parce que on voit bien que, enfin, quand on voit 70% d'abstention des jeunes aux législatives, alors que ils font partie des plus conscients des enjeux climatiques, c'est inquiétant pour notre avenir. Et pour nous, ça doit passer vraiment par l'école, pour pouvoir toucher vraiment tous les jeunes, parce que via l'associatif, malheureusement, même si déjà il y a des manques de moyens énormes, mais en fait ce sera pas assez pour pouvoir provoquer un changement du système politique à l'échelle nationale.
François Mondil, je vous fais réagir sur ces propositions de Lorraine Lolo qu'on vient d'entendre à l'instant. Beaucoup d'optimisme.
Oui, vous posiez la question tout à l'heure, qu'est-ce qui permet de rester optimiste quand on est un vieux militant? Typiquement, les interventions comme toutes les explications que vient de donner Lorraine Lolo et ce type de personnes que j'aurais aimé voir plus à l'Assemblée nationale, comme vous le disiez, hein, Lorraine Lolo, parce que je crois que c'est fondamental. On parle beaucoup de les jeunes vont pas voter, etc. Oui, c'est dommage, et en même temps on peut le comprendre, notamment parce que l'Assemblée nationale, qui est censée être la représentation de la France en entière, n'est que très peu représentative. On a souvent parlé du fait que c'est un certain type seulement de catégorie sociale, mais il y a aussi les questions d'âge, les questions de sexe, même si ça commence à se rétablir. Mais aussi, quand on a 20, 25 ans et qu'on regarde qui va à l'Assemblée nationale, je comprends qu'on se sente pas représenté et donc pas concerné. Et je trouve ça passionnant que des jeunes comme Lorraine Lolo, comme son association, s'engagent et permettent à des personnes qui se sont éloignées d'avoir cette formation politique. Mais en plus, quand je dis se sent éloignées, moi, il me semble que notamment les quartiers populaires sont volontairement exclus. C'est-à-dire que il n'y a pas une vraie volonté globale de les inclure dans les politiques publiques, dans la vie politique, parce que soit il y a une sorte de mépris qui dit que qui fait que ces gens-là, de toute façon, ils comprennent rien à la politique, donc c'est pas la peine. Ou alors, si ces gens-là commencent à se politiser et à s'organiser, ça va nous poser des problèmes politiques. Et donc, ce que fait Cité des Chances est quelque chose de fondamental. Et donc, oui, je suis très optimiste. Et d'ailleurs, on voit bien, enfin, comme le disait Lorraine Lolo, que fin du mois et fin du monde vont ensemble. Et ce sont des gens qui se posent plus la question de est-ce qu'il faut privilégier la lutte contre le changement climatique ou pouvoir tous manger à sa faim. En fait, on sait que c'est la même chose. Et donc, ces jeunes générations porte des questions centrales, et donc ça, c'est ça qui permet d'avoir confiance. Merci.
Et merci beaucoup Lorraine Lolo d'être venue nous partager cette proposition ce matin. On vous réinvitera pour venir nous raconter comment cette proposition vit à travers vous, puis qu'est-ce qui bouge aussi peut-être du côté de l'école notamment. Merci beaucoup.
Avec plaisir.
Merci Lorraine Lolo, passez un bel été. Émission spéciale de 2 heures ce matin, vous l'entendez dans Je pense donc j'agis. On essaye d'inventer le monde de demain, alors on le fait pas seul avec Anne Kerléau, puisqu'on reçoit plusieurs invités, vous les entendez, avec François Mandil, notre premier fil rouge, et vous toutes et tous au 04 72 38 20 23 pour vous aussi réagir, réagir aux idées, projets, propositions de nos invités, et venez aussi nous faire part des vôtres, 04 72 38 20 23, et par mail à direct@rcf.fr. On accueille Anne, notre deuxième invitée.
Et oui, bonjour Marie-Hélène Lafage.
Bonjour.
Alors, votre CV est long, j'essaye d'en donner un petit bout, qu'on sache un peu qui vous êtes pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore. Co-fondatrice de l'Institut Transition, un lieu de formation pour celles et ceux qui veulent réorienter leur vie professionnelle en phase avec les besoins de la transition écologique. Co-fondatrice aussi des Alter Cato, un think tank cato qui anime le café coworking. Melchior, vous riez parce que je ne sais pas dire ce mot.
Un think tank.
Pardon. Et puis, vous avez publié aux éditions Première Partie le livre Laudato si en acte, petit guide de conversion écologique. On peut encore le trouver pour ceux qui ne l'auraient pas sur leur table de chevet. Et puis, vous êtes consultante en politique locale. Alors, avec quelle proposition pour inventer un monde juste et durable êtes-vous venue ce matin?
Alors, je suis venue avec quelque chose qui est quand même d'actualité, qui est l'adaptation des villes au changement climatique. C'est vrai que dans les rapports du GIEC, on entend énormément parler des questions d'atténuation. Comment on va limiter nos émissions pour essayer de réduire le changement climatique, puisque de toute façon, il est à l'œuvre. Et le deuxième volet, c'est l'adaptation. Et donc, en fait, ça va être le sujet montant de ces prochaines années. On en entend de plus en plus parler. Là, on en a entendu un petit peu parler dans l'actualité, puisqu'il était question de comment on adapte aujourd'hui les villes aux fortes chaleurs avec la végétalisation. Donc, c'est vrai que ça a été pas mal évoqué ces derniers temps. Et je pense qu'on l'a toutes et tous ressenti dans nos logements, dans les rues, partout, le besoin de fraîcheur et de végétation. Mais en fait, c'est un peu plus large que ça. C'est aujourd'hui un énorme chantier qui vise autant à transformer nos modes de construction, à aller sur tout ce qui est aussi rénovation énergétique. Alors, on parle beaucoup de rénovation thermique aujourd'hui. Quand on dit rénover les logements, c'est pour pas avoir froid. Mais en fait, on doit changer complètement de vision et se dire rénover les logements aujourd'hui, c'est aussi pour pas avoir chaud. Et donc, on a toute une mutation à faire dans notre approche des territoires, des villes et de la manière dont il faut qu'ils se transforment. Ça doit prendre en compte aussi, évidemment, la question de la crise de la biodiversité urbaine, même si on peut se dire que c'est pas là que sont les enjeux majeurs, en fait, si, il y a aussi des enjeux de maintien de la biodiversité en ville. Et du coup, c'est là que la végétalisation joue un rôle fort, et pour adapter aux fortes chaleurs, et aussi pour répondre à la crise de la biodiversité. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, sur cette question? Parce qu'on peut se dire que finalement, ça regarde beaucoup
c'est
les pouvoirs publics,
ouais.
Et que c'est de la politique. Alors déjà, on peut orienter son vote en fonction de ces questions-là aussi. Et on l'a vu aux dernières municipales, la question de la végétalisation, par exemple, n'a jamais été autant présente dans une campagne. Je pense qu'à la prochaine campagne municipale, celui qui ne parlera pas de végétalisation aura vraiment raté quelque chose. Et qu'en tout cas, c'est une bonne nouvelle que les politiques s'en saisissent un peu. Et nous, électeurs, on a aussi à avoir un regard là-dessus. Alors après, non, ça ne concerne pas que les politiques, même s'il y a aujourd'hui un énorme retard et il y aurait besoin d'un plan massif au niveau national sur ces questions. Mais on peut aussi, au niveau local, que ce soit par des collectifs, que ce soit en tant que citoyen, participer à la végétalisation, créer des jardins collectifs. Il y a aussi des villes qui font des permis de végétaliser, donc on peut se saisir pour végétaliser en bas de chez soi. L'église pourrait être un super acteur aussi par tous les terrains dont elle dispose, par des espaces qui pourraient devenir des jardins collectifs. Des espaces de fraîcheur, et puis quand on parle d'espaces de fraîcheur, ça peut être aussi comment on s'organise au niveau local pour mettre à disposition des espaces de fraîcheur pour des personnes qui n'y ont pas accès. Puisqu'il y a aussi une énorme question d'inégalité sur ces sujets, donc ça peut être, j'ai un café associatif, je peux l'ouvrir à des personnes âgées, ça peut être aussi, dans le cas de l'église, ouvrir certains espaces et certains bâtiments. Et pourquoi pas aussi des chantiers citoyens sur ces questions. On sait que dans l'après-guerre, au moment où la crise du logement était particulièrement aiguë, il y a les castors qui se sont créés pour construire des logements. Bah, pourquoi pas demain des chantiers citoyens aussi pour accompagner cette nécessité de l'isolation thermique.
Mais on sent que vous liez vraiment tout le temps les enjeux environnementaux, en l'occurrence l'adaptation au changement climatique, et des enjeux sociaux, voire sociétaux, et notamment de liens sociaux, de citoyenneté aussi.
C'est là que l'implication citoyenne est absolument cruciale. C'est que pour beaucoup de sujets, aujourd'hui, on se tourne vers le politique, ce qui est sain et ce qui est normal. Mais en fait, si on se dote pas d'organisations collectives aussi qui permettent de prendre en charge ces sujets, non seulement on sera pas au rendez-vous des enjeux, quand on parle de végétalisation, c'est sûr que c'est pas les pouvoirs publics qui pourront agir seuls. Et puis en fait, on passe à côté aussi du lien social qu'on peut créer autour de ça. Et finalement, on peut voir l'adaptation comme une contrainte supplémentaire. Mais c'est pas du tout ça, c'est être en termes d'anticipation et pas de réaction. Et c'est plutôt un projet enthousiasmant pour aujourd'hui transformer la ville, nos modes de vie, vers quelque chose de mieux.
François Mandil, c'est un vrai sujet ça, on en a parlé beaucoup de fois d'ailleurs dans Je pense donc j'agis, dans certains sujets, la ville face au changement climatique, avec ce projet, cette idée soulignée par Marie-Hélène Lafage. Qu'est-ce que vous en pensez, François?
Oui, d'abord, on est dans une société très urbaine, donc forcément, il y a des gros enjeux sur la ville. Et puis, avec Arléo, vous disiez que le CV de Marie-Hélène Lafage était très long, mais elle a, il me semble aussi, été très impliquée dans des collectifs citoyens contre la publicité. Et il me semble que, à mon avis, la publicité est sans doute l'un des principaux ennemis du climat, c'est-à-dire la publicité, c'est ce qui nous force à consommer, qui nous réduit à des êtres de consommation où on est évalué que sur ce qu'on consomme, ce qu'on dépense. Et ces collectifs citoyens, eh bien, on l'a vu, ça a pas fait beaucoup de bruit, mais ça aboutit là récemment à Lyon, grâce à leur action sur plusieurs années, eh bien, la métropole de Lyon vient d'interdire, va se débarrasser de tous les panneaux publicitaires lumineux. Donc non seulement ça va beaucoup moins consommer, mais en plus, je pense que ça va permettre plus de liens sociaux et ça va libérer les habitants et habitantes du Grand Lyon de la pression de la consommation. Et donc c'est une vraie victoire et ça fait le lien aussi avec ce qu'on se disait au tout début, c'est-à-dire que ces actions, elles avancent, il y a des possibilités d'agir, notamment en étant dans des collectifs citoyens, et c'est comme ça qu'on aboutit notamment à cette victoire sur la publicité. Donc bravo et merci.
Je rappelle que vous avez la parole au 04 72 38 20 23 pour réagir, pour donner vous aussi vos idées, vos projets pour inventer le monde de demain. Mathieu nous a rejoint. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
On vous écoute.
Oui, donc nous on propose de planifier le thorium, l'énergie du thorium pour passer aux immeubles champs, avec c'est des immeubles avec des personnes dedans et des champs à l'intérieur, donc des immeubles où on loge des gens et on a des champs.
Oui.
Et on propose aussi de vertir les déserts, pas en France évidemment, et aussi passer aux industries pour avoir une balance commerciale positive, ne pas s'endetter et avoir du temps pour créer.
D'accord.
Et favoriser la curiosité pour la planification.
Vous avez cité le thorium tout à l'heure, Mathieu. Qu'est-ce que c'est pour parce que même moi, je ne sais pas du tout ce que c'est
moi
le thorium.
Alors, le thorium, c'est un actinide mineur, c'est un déchet nucléaire naturel.
Oui.
Qui peut se fissurer avec un atome, avec un électron en plus. Donc en fait, c'est comme l'uranium, sauf que ça recycle des déchets nucléaires. Ça s'arrête sur demande. C'était le meilleur du nucléaire, en fait. Mm. On n'a pas eu le meilleur du nucléaire. On a eu l'uranium qui était choisi depuis longtemps, en fait.
Eh bien, merci beaucoup, Mathieu, pour cette idée partagée avec nous en direct. Assez technique, Marie-Hélène Lafage, ça vous parle ?
Oui, aujourd'hui, il y a beaucoup de réflexions, notamment autour du nucléaire et sur les nouvelles solutions qui pourraient être adoptées. Donc, je pense que ça en fait partie. Après, moi, je pense qu'aujourd'hui, on se perd aussi dans un débat sur les sources d'énergie, alors qu'on doit déjà réfléchir à comment on diminue la consommation d'énergie. Et que du coup, le premier... Enfin, ça concerne tout le monde. Mais ça invite aussi à peut-être à arbitrer parmi des usages qui sont pas utiles. On parlait tout à l'heure de la publicité. Là, on a parlé de la végétalisation récemment, mais aussi il y a eu cette tribune de Total et d'autres grands géants de l'énergie pour que les citoyens diminuent leur consommation énergétique. Et en fait, c'est très drôle de voir toutes les réactions qu'il y a eu sur le mode bah, « quand est-ce qu'on commence peut-être par éteindre les écrans vidéo publicitaires ?» ou ce type de choses, où tout le monde dit bah, « en fait, si on veut vraiment aborder cette question de diminution des consommations d'énergie, il va falloir déjà arbitrer collectivement parmi nos usages et peut-être commencer par ce qui n'est pas utile. »
Mais est-ce que tout le monde en est là? Parce que est-ce que la pente naturelle, c'est pas encore de tout attendre plutôt de solutions techniques comme celle que vient d'exposer Mathieu que de se dire qu'il faut diminuer notre consommation?
Alors oui, parce que l'énergie est encore perçue collectivement, je pense, comme quelque chose d'infini, de gratuit, dans une optique de développement. Mais en fait, là, la hausse des prix, elle commence quand même à taper sur cette vision-là. Le fait que les prix de l'énergie commencent à atteindre ce qu'ils atteignent, c'est pour ça qu'on a ce type de débat. De même que la ressource en eau, aujourd'hui, elle est perçue comme une ressource gratuite, illimitée, ben on commence à changer un peu de vision. Et je pense que ces sujets-là vont faire du chemin et que quand il y aura des personnes qui ne pourront plus avoir accès et qu'on atteindra des coûts élevés, là, on sera un peu obligé de s'organiser collectivement. Mais il vaudrait mieux ne pas attendre ça.
François Mandil, vous n'êtes pas un expert du thorium. Par contre, je suis sûr que vous voulez réagir quand même.
Oui, effectivement. Je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Marie-Hélène Lafage. La difficulté étant que ce qui est dur, c'est de renoncer à une société, un fonctionnement de société tel qu'il est actuellement. C'est ça le plus compliqué. C'est de se dire qu'il faut qu'on invente une autre façon de fonctionner. Oui, on ne peut pas... On ne pourra jamais, sans doute, en tout cas sûrement pas à court terme, ni même à moyen terme, remplacer entièrement l'énergie que nous consommons par une énergie entièrement décarbonée, propre, renouvelable, etc. C'est pas vrai. Donc, non seulement il faut avoir une meilleure consommation, si on avait fait par exemple l'isolation des bâtiments telle que c'était prévu par le Grenelle de l'environnement, on économisait une année de gaz russe aujourd'hui. Une année de consommation de gaz russe. Mais on ne l'a pas fait. Donc déjà, il y a quelque chose en termes d'efficacité à faire. Et puis, oui, à nouveau, de toute façon, on ne pourra pas revivre éternellement comme on le vit aujourd'hui. Nous vivons à crédit sur les générations futures. Nous vivons en profitant, et même d'ailleurs... Les générations précédentes ont vécu à crédit sur nous aujourd'hui, puisque la sécheresse, on le voit aujourd'hui, nous sommes déjà victimes du changement climatique. Et donc, on entend souvent cette expression que je trouve absolument insupportable d'écologie punitive. C'est pas l'écologie qui est punitive, c'est de ne pas en faire. La punition, c'est nous qui la subissons aujourd'hui avec les sécheresses, avec la perturbation du climat. On le subit aujourd'hui, c'est ça la punition, c'est de ne pas avoir fait d'écologie. Et donc, oui, nous devons changer de société, c'est pas une punition, c'est une punition si on ne fait rien, mais ça sera un vrai gain, ça sera une vraie joie si on invente une société avec plus de liens sociaux, où on est moins prisonnier de la consommation.
Allez, on va marquer une courte pause dans Je pense, donc j'agis. On continue cette émission spéciale jusqu'à 11h pour inventer le monde de demain avec nos nombreux invités, avec vos idées également au 04 72 38 20 23. À tout de suite.
Et je vole encore, encore mes joies. J'en veux encore, même si je comprends pas pourquoi je change. Et quelquefois, j'ai tellement peur que la nuit ne vienne pas. Car quand je dors, je rêve de ça, de tout comprendre et de savoir pourquoi. Sur des accords un peu maladroits, j'arrive encore à capturer mes joies. Je voudrais tout savoir et voir dans le noir. Je voudrais tout savoir et voir dans le noir.
La chanteuse Adé sur RCF, membre du groupe Thérapie Taxi, Tout Savoir.
Je pense, donc j'agis, avec Melchior Gormand et Anne Kerléo.
C'est la dernière émission, je pense, donc j'agis, de la saison dédiée à l'écologie. Et donc, émission spéciale oblige. Pendant 2 heures jusqu'à 11 heures avec Anne Kerléo et nos invités, on essaye de faire des plans sur la comète et d'inventer le monde de demain. Vous entendez de nombreuses idées, de nombreux projets. On va continuer, rassurez-vous. Et puis, bien sûr, vous avez la parole au 04 72 38 20 23 pour vous aussi partager vos bonnes idées pour inventer le monde de demain. On continue d'accueillir nos invités avec une invitée tout de suite qui nous a rejoint.
Oui, bonjour Juliette Le Sueur.
Bonjour Anne.
Alors,
bonjour Malcoeur.
Bonjour.
Merci d'être avec nous depuis Grenoble où on salue Nicolas Boutry, le technicien de RCF Isère qui vous accueille dans son studio pour ce duplex. Alors vous, vous êtes membre de l'équipe écologie intégrale du diocèse de Grenoble-Vienne. Vous avez été ambassadrice du label Église verte à la COP26 à Glasgow et vous êtes aussi animatrice de la fresque du climat et puis plein d'autres choses, mais je m'arrête là. Avec quelle proposition êtes-vous venue ce matin à nous partager ?
Eh bien, en fait, en vous écoutant, je viens avec deux propositions. J'ai droit à deux ?
Allez, si c'est synthétique, oui.
ma première proposition, c'est de continuer de s'informer et de s'éduquer. Parce que quand on comprend les enjeux du dérèglement climatique, quand on comprend à quel point tout est lié, Marie-Hélène a parlé de la dimension sociale tout à l'heure, la justice sociale, quand je suis allée à Glasgow, c'était vraiment un des points forts au niveau international. Il y a vraiment une notion de justice sociale et climatique qui est très forte. Du coup, si au niveau du grand public, on arrive à augmenter son niveau d'information et de compréhension, ça permet de comprendre mieux et de mieux accepter de plus avoir de pubs, de plus avoir d'écrans lumineux, de réduire son chauffage, tout prend du sens, enfin tout. En tout cas, les mesures à prendre pour aller vers plus de sobriété vont faire du sens et vont avoir un objectif précis. Donc ça, c'est une première chose.
Peut-être qu'avant d'entendre la deuxième, on peut demander...
La deuxième, non, mais du coup, pour ça, il y a énormément de choses. Il y a plein d'outils qu'on appelle des serious games maintenant, qui vont de la fresque du climat, l'atelier d'automne, la fresque du numérique, la fresque des nouveaux récits de l'alimentation, etc., etc. En fait, c'est ces jeux sérieux qui utilisent l'intelligence collective qui sont... Donc des moments ludiques, hein. C'est vraiment sympa de participer à un atelier. Ça permet de, sur un thème en particulier, d'aller voir assez loin toutes les causes, toutes les conséquences, tout ce qui est relié, tout ce qui est, et où est-ce que moi, individuellement, je vais, où est-ce que j'ai une empreinte forte et où est-ce que je peux avoir un levier d'action.
Et pour ceux qui voudraient participer, là on va être très concret, il y en a un peu partout, comment on a l'info justement pour savoir s'il y a une fresque du climat près de chez moi ou...
Alors sur le site internet, tout simplement, fresqueduclimat.org, je ne peux que conseiller l'atelier d'automne qui est la suite logique de la fresque du climat, qui est vraiment un atelier sur lequel on va être dans de la recherche de solutions et où on va comprendre l'intérêt des actions individuelles, mais aussi le gros intérêt des actions collectives et que les actions collectives dépendent de nos actions individuelles aussi, parce qu'en fait, plus nous, on a d'actions individuelles et plus nous, en tant que citoyens, on va changer nos exigences et nos attendus par rapport aux industriels et par rapport aux législateurs, plus ça va faire avancer les choses au niveau collectif. Et on voit que les choses avancent déjà parce que moi, quand j'ai commencé, quand je suis tombée là-dedans il y a 2 ans et demi, l'empreinte carbone des Français, elle était à 12 tonnes. Alors, il y a eu un nouveau mode de calcul, mais il n'empêche que maintenant, on est à 9,5 tonnes d'équivalent CO2 par an et par personne en France. Et les services publics qui utilisaient 1,5 tonne n'utilisent déjà plus que 1 tonne. Donc, c'est en marche. C'est, voilà, moi, je tiens vraiment à le dire. Il y a énormément de choses qui sont faites, qui sont en cours et qui sont quantifiables et où on voit déjà des résultats.
Marie-Hélène Lafage, peut-être quelques mots sur ce que vient de dire Juliette.
Ben, je trouve que c'est fondamental, en fait, aujourd'hui, la manière dont les citoyens s'emparent de cette question de la sensibilisation, de la connaissance en changement climatique. Déjà parce que ça crée du lien aussi entre les personnes et parce que on se rend compte, quand on débat autour de soi, un peu partout, qu'il y a encore beaucoup de fausses idées sur le changement climatique, ou des personnes qui sont loin de tout ça. Et voilà, il y a une nécessité en fait aussi que les citoyens s'en emparent pour créer des espaces où ils peuvent en discuter, où ils peuvent se former, où ils peuvent aussi voir comment ils peuvent passer à l'action. Et voilà, c'est aussi ce qu'on a essayé de faire au Simone, donc un café associatif, c'est quand même un endroit aussi absolument génial pour ça, et pour les rencontres que ça peut créer, quitte à ce que parfois il y ait des personnes qui s'expriment dans leur désaccord, mais qu'elles se sentent libres en fait d'être dans un endroit où on peut se parler, on peut discuter, et je préfère que en fait les gens se parlent, échangent, débattent en vrai que sur les réseaux sociaux, où il y a souvent des échanges qui sont pas très intéressants, assez pauvres et très conflictuels, notamment sur ces questions-là.
François Mandil, vous êtes notre fil rouge encore pendant quelques minutes. Une réaction sur ces idées partagées par notre invité, le côté collectif aussi qui est revenu.
Oui, et puis c'est très important, mais je voudrais faire un petit pas de côté, puisque vos deux invités sont très marqués par l'audace aussi, et je voulais partager une réflexion qui est de... une sorte de surprise, peut-être de déception que l'Église ne prenne, enfin, on attend la dimension prophétique sur ce sujet de l'Église catholique. Quand le Christ dit on ne peut pas servir à la fois Dieu et l'argent, pour moi, concrètement, on pourrait résumer la conception de l'écologie à ça. Moi, je trouve qu'on devrait entendre beaucoup plus les chrétiens sur les questions de conversion écologique, de sobriété, de lien social, etc. Et être beaucoup plus porteur. Et je trouve que, grâce au pape François, on a eu une prise de conscience, mais que le soufflet est un peu retombé, malheureusement. Or, s'il y a bien une chose que le pape a permis de faire comprendre aux chrétiens, c'est que l'écologie, c'était bien une conception globale où tout est lié. C'est ce que disaient les écologistes depuis des années. Et donc, on voit bien que tout ça se retrouve, mais malheureusement c'est un peu retombé. L'Église catholique a su créer le Secours catholique après la guerre pour répondre aux questions d'urgence sociale et de pauvreté. On a su créer le Comité catholique contre la faim, qui est devenu le CCFD quelques années après, pour lutter contre les famines dans le monde. Je pense que nous avons besoin aussi d'une grande structure d'Église avec des délégués dans tous les diocèses sur la question de la transformation écologique, sur la protection de la création, et des êtres humains. Mais ça nécessite un grand mouvement et une grande ambition collective des évêques. Et je crois que nous en avons besoin en urgence.
Eh bien, on invitera des évêques en septembre pour la saison de la création. On leur posera cette question et vous pourrez venir, François Mandy, les interpeller là-dessus si vous le souhaitez. Juliette Le Sueur, vous aviez une deuxième proposition, vraiment en quelques mots.
Ouais, ma deuxième proposition, c'est d'oser témoigner, en fait. C'est d'oser dire publiquement, ben moi je mange plus de viande. Ben chez moi j'ai baissé le chauffage et j'ai rajouté des bouillottes et j'ai sorti, j'ai mis des rideaux anti-froid et etc etc. C'est d'oser raconter que en fait quand je mets de la sobriété dans ma vie à la vitesse à laquelle c'est juste pour moi. Eh ben, c'est pas une régression, mais c'est vraiment une évolution. C'est beaucoup plus de temps, c'est beaucoup plus de joie, c'est beaucoup plus de sincérité et de chaleur dans les relations humaines. C'est vraiment, vraiment quelque chose de désirable et d'enviable. C'est Pierre Rabhi qui parle de la sobriété heureuse. Elle est vraiment, moi, je trouve que tous ces jeunes ingénieurs diplômés là qui témoignent publiquement de leurs engagements, ça c'est quelque chose de fort. Et moi je rêve. Alors je ne suis pas suffisamment bonne écrivaine pour faire ça, mais je rêve d'auteurs qui, au lieu d'écrire des dystopies absolument terribles sur la fin du monde, je rêve d'auteurs qui écriraient des utopies absolument désirables sur le monde d'après, sur cette transition qui est là, qui est en cours et qui nous donnerait des idées, parce que je trouve que en fait il y a tellement de, ça fait tellement longtemps depuis 1982 qui date du début du XXe siècle où on est bercé par des dystopies, mais je pense que ça crée nos mentalités en fait, ça vient construire notre mental. Donc mon idée, ça serait ça. Ça serait de créer des histoires pour reconstruire notre mental.
Alors, il y en a quelques-unes. Hein. On avait reçu dans cette émission Ève Gabriel qui a écrit La part cachée du monde, par exemple, qui est une utopie. On peut aller relire Écotopia de Kallenberg. Alors ça, c'est un peu plus vieux. Puis il y en a... Enfin, ça vient. Il commence à y avoir des utopies.
François Mandil.
Mais moi, je rêve qu'il y en ait sur Netflix. Hein.
Ou d'autres plateformes, hein, bien
sûr. Un look-up à l'envers.
Ouais, ou d'autres, enfin, des grand public.
François Mandil, raconter des histoires, écrire des histoires, ça vous fait rêver.
On dit juste au revoir Marie-Hélène Lafage qui doit nous quitter. Merci beaucoup Marie-Hélène d'être venue dans Je pense donc j'agis ce matin.
Merci.
Avec plaisir, et puis je pense que je vous laisse en bonne compagnie. Merci.
On a encore du boulot. François Mandil, sur les histoires
oui,
à raconter, à écrire.
Tout à fait d'accord sur l'importance, hein, c'est ce qu'on se disait au début, de présenter et d'inventer des futurs désirables. C'est fondamental et de montrer que on peut inventer une autre société avec des liens humains où on est en harmonie avec son environnement naturel, son environnement humain. Sur la question du témoignage de ce qu'on fait déjà aujourd'hui, je suis à la fois évidemment pleinement convaincu, avec une limite qui est moi j'habite en zone rurale et je vais bosser à vélo, c'est pas possible pour tout le monde, c'est compliqué parce que les routes ne sont pas sécurisées, et je pense que ça il faut le dire aussi, c'est-à-dire que la société telle qu'elle est organisée actuellement, les politiques publiques sont un frein à cette sobriété, et il faut le dire aussi, c'est-à-dire que à la fois moi ça me fait plaisir de prendre le vélo pour aller bosser parce que j'ai les moyens, mais c'est pas le cas de tout le monde et qu'il y a plein de gens qui aimeraient pouvoir le faire aussi. Et donc, il faut témoigner des deux à la fois.
On va accueillir... Mais François, on vous remercie, on vous libère surtout, parce que je crois que vous devez nous quitter. Merci d'avoir tenu le cap.
Merci à vous.
Et merci pour toutes les chroniques tout au long de l'année. On vous retrouve bientôt.
On vous souhaite un bel été, François Mandil.
Bon été et bonne fin d'émission.
Merci beaucoup. Et on continue, Anne-Claire Léo, d'accueillir nos différents invités. Après Juliette Le Sueur, qui est toujours avec nous d'ailleurs, hein, Juliette, on accueille une nouvelle invitée.
Oui, alors c'est Clara Alibert. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous travaillez au Secours catholique Caritas France, où vous êtes chargée de plaidoyer international, droit à l'alimentation et climat. Quelle est votre proposition ce matin pour un monde plus juste et plus durable ?
Bonjour à tout le monde et encore merci pour l'invitation. Donc la proposition qu'on voulait vous présenter aujourd'hui, pareil, hein, je pense que c'est comme tous les intervenants, il y en a beaucoup. Mais aujourd'hui, on voulait vous présenter une proposition qui repose sur les peuples autochtones et les communautés locales. Donc peut-être en termes d'introduction, dire que le Secours catholique est présent à l'international dans plus de 50 pays via ses partenaires internationaux. Et on accompagne en fait les populations les plus vulnérables face au changement climatique et notamment donc les peuples autochtones et les communautés locales qui vivent vraiment de plein fouet les changements climatiques. Les peuples autochtones, c'est 5% de la population mondiale et c'est aussi 15% des personnes les plus pauvres au monde. Et ce qu'on constate sur le terrain, ce que constate ces peuples, c'est qu'il y a une vraie déstabilisation des cycles naturels et donc une déstabilisation de leur mode de vie et de leurs moyens de subsistance. Je vais faire court, mais c'est aussi des populations qui vivent sur des territoires avec une grande richesse naturelle et donc il y a énormément de convoitise et donc énormément de violations de droits humains et de droits des peuples autochtones. Mais aujourd'hui, pour la proposition, et j'y viens, c'est
prenez votre temps.
Merci de nous interroger sur le lien qu'ont ces peuples et ces communautés avec la nature. Il y avait justement un intervenant qui parlait de réinventer notre rapport au monde, et c'est vraiment des populations qui nous invitent à faire cela. Et ces peuples, en fait, ont un rapport à la nature qui est très intéressant puisqu'il est collectif. Il y a une responsabilité partagée de prendre soin des écosystèmes. Et à l'heure de l'urgence écologique climatique, tous les experts du GIEC, par exemple, nous rappellent combien il est important de protéger, de restaurer ces écosystèmes. Et ces peuples autochtones ont un rôle déterminant dans cette protection. C'est assez compliqué d'avoir des données exactes, mais à peu près la moitié des terres émergées au monde, il y a des peuples autochtones et des communautés locales qui y vivent. On sait que 80% de la biodiversité qui reste se trouve également sur les territoires autochtones. Et pourtant, face à ça, il n'y a que 10% des terres qui ont une reconnaissance légale. Donc, j'en viens à la proposition du Secours catholique qui est de dire il faut sécuriser les droits fonciers, les droits à la terre de ces populations, de ces communautés locales, pour leur permettre de gérer durablement, de gérer collectivement ces écosystèmes qui sont absolument nécessaires pour, notamment via les puits de carbone, absorber le CO2 de l'atmosphère.
Juliette Le Sueur, ça rejoint finalement quelque chose que vous disiez tout à l'heure. Enfin, vous parliez plutôt de justice climatique, mais pour bien appréhender ces questions, même nous, citoyens en France, on a à s'intéresser à ce que vient de dire Clara Alibert et qui nous invite à élargir bien plus notre horizon.
Oui, alors complètement. Et alors, surtout, je peux juste témoigner d'une petite chose. Quand j'étais à Glasgow, je suis allée, j'ai participé à des conférences et donc j'ai découvert que en Europe, il y avait des peuples autochtones. Et alors, je suis tombée de ma chaise parce que pour moi, les peuples autochtones, ils étaient très très loin de chez nous. Et donc, en fait, tout le nord de l'Europe est plein de peuples autochtones qui sont vraiment vraiment menacés. Dans tout, hein, dans leur habitat, dans ce qui vient d'être expliqué. Et moi, le fait de me rendre compte de ça, d'avoir ces gens-là en face de moi qui me racontaient leur vie, je me suis sentie très mal. Je me suis sentie la blanche orgueilleuse supérieure de pays développés, là. Et je me suis dit que oui, moi aussi, en tant que Française, je devais vraiment avoir l'attention de ces peuples autochtones, mais vraiment.
Clara, si je peux juste faire une petite précision, c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez méconnu, mais en France, il y a également des peuples autochtones, notamment en Guyane française, avec les peuples amérindiens de Guyane. Et donc je salue la délégation de Guyane qui accompagne notamment des femmes amérindiennes à s'exprimer sur leur réalité et à partager leurs pratiques, leurs traditions, parce que ça fait aussi partie des menaces qui pèsent sur ces peuples autochtones. C'est de voir s'éteindre tout un type de pratique et il y a tout un enjeu avec la transmission aux nouvelles générations. Mais voilà, c'est quelque chose qui n'est pas connu et d'où les surprises parfois quand on va à la rencontre de ces sujets.
Vous parliez de sécuriser donc leurs droits à la terre. Alors on voit bien que c'est une question politique qui demande des décisions publiques. Mais comment nous, citoyens européens, français, on peut participer à cet objectif-là que vous nous fixez ce matin ?
Ben, c'est justement, et ça fait aussi écho à des interventions précédentes, de s'informer, en fait, de tout l'éventail qu'il y a sous le thème de justice climatique. Et c'est vraiment un terme qui est important pour moi et pour le Secours catholique. On était également présents à Glasgow et c'est ce qui marque un peu ces rencontres internationales, c'est ce besoin de justice climatique. Et donc, je pense que les Français, les Françaises, en allant par exemple manifester pour que la justice climatique devienne réalité, pour que les États du Nord eh bien, soutiennent financièrement les États du Sud à faire face à ces enjeux climatiques, pour moi ça fait partie aussi d'un ensemble qui est de reconnaître que dans d'autres territoires, eh bien, il y a des populations qui subissent les impacts du changement climatique. Après, sur cette question plus technique du droit foncier, c'est vrai qu'il y a un peu c'est des compétences de chaque État, mais rien qu'au niveau français, hein, par rapport au peuple amérindien de Guyane, la France se refuse toujours, par exemple, de ratifier un traité international, qui est la Convention 169 de l'Organisation internationale du travail. Donc voilà, en tant que Français, on peut aussi demander à notre État de reconnaître les peuples amérindiens de Guyane et donc de ratifier cette convention, par exemple.
Et juste pour les personnes qui découvriraient en fait toute cette problématique ce matin en vous écoutant, quel conseil pour peut-être avant de passer à l'action citoyenne, juste pour s'informer sur ces questions-là?
Alors, pour s'informer sur ces questions, je pense qu'il y a, enfin, maintenant, il y a beaucoup de contenu, des podcasts, des reportages extrêmement bien faits. Il y a beaucoup de littérature aussi sur cette question des peuples autochtones. Ce qui est intéressant, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est quand c'est ces populations, ces communautés, on leur donne la parole. Et là, c'est encore plus intéressant d'écouter quelles sont leurs réalités, quelles sont leurs traditions. Il y a des événements. Par exemple, bon, là, c'est un peu plus loin, mais... Le Secours catholique sera présent au FOSPA, donc c'est le Forum social panamazonien qui aura lieu au Brésil fin juillet. Voilà, donc c'est des événements de rencontres, de joie qui permettent de se retrouver, mais aussi de découvrir. On part avec une délégation de plusieurs personnes, des délégations du Berry par exemple, qui vont également découvrir tous les enjeux et voilà toutes ces choses autour des peuples autochtones et des communautés locales.
Alors Juliette et Clara, vous n'êtes pas les seules à avoir des bonnes idées. Anne-Marie nous a rejoint au 04 72 38 20 23. Bonjour Anne-Marie.
Bonjour.
On vous écoute.
Ben, autrefois, les paysans entretenaient la terre. Aujourd'hui, il y a des maisons abandonnées dans les campagnes. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer qu'on offre une maison et un petit salaire à des personnes à charge pour elles, après une petite formation, d'entretenir une portion de territoire en le cultivant, en élevant des animaux, enfin, selon les régions, quoi. Ça permettrait de donner du travail à des chômeurs et éventuellement de réorienter des personnes qui ont des boulots inutiles ou même nuisibles.
Eh ben, écoutez, merci Anne-Marie pour cette idée intéressante, voilà, qui nous donne aussi de la matière, hein, Anne.
Oui, tout à l'heure on parlait de la zone urbaine. Juliette, vous aviez envie de réagir? Ah non,
de
partir.
Non, je vais y aller. Merci. Je dois vous laisser.
Merci d'avoir été avec nous, en tout cas ce matin, depuis Grenoble, ville écologique.
Mais avec plaisir.
On vous retrouvera prochainement sur l'antenne. Clara Alibert, qu'est-ce que ça vous inspire, ce que vient de nous dire Anne-Marie? En fait, ces paysans potentiels français dont elle nous parle ont à voir avec les peuples autochtones dont vous venez de nous parler?
Bah, c'est le rapport à la terre et la difficulté peut-être d'accéder à la terre, soit pour des considérations légales. Voilà, il y a aussi tout un sujet, beaucoup de difficultés pour les femmes autochtones ou les femmes appartenant à des communautés locales d'accéder à la terre. Après, moi, ça me fait penser, ce que vient de nous dire l'auditrice, au fait qu'il faut associer... les pratiques durables, donc le travail de la terre, avec qui peut en bénéficier, et notamment les plus précaires. Et c'est tout le message du Secours catholique, de dire que la transition écologique doit être pensée avec les plus précaires pour leur bénéficier, et notamment d'un point de vue accès au travail, accès à un revenu digne.
Vous anticipez la question que j'allais vous poser, en fait, pour terminer. C'est-à-dire que, au Secours catholique, aujourd'hui, parce qu'on pourrait se dire, le Secours catholique, bah, c'était plutôt l'aide aux plus pauvres, l'accompagnement des personnes qui vivent la galère. Et là, on sent que vous êtes de plein pied aussi dans les enjeux environnementaux. Pour vous, naturellement, aujourd'hui, tout est lié?
Oui, vraiment, tout est lié. Et puis, le Secours catholique, en fait, s'est toujours intéressé, à lutter contre les causes de la pauvreté. Et aujourd'hui, on peut pas fermer les yeux. Une des causes de pauvreté en France, dans le monde, c'est les changements climatiques et c'est les changements sociétaux, politiques, économiques qu'on va subir. Donc forcément, on est obligé, mais c'est une chance en fait de s'intéresser à ces changements et c'est toute la, tout le travail du secours. Il y a une continuité pour moi dans nos démarches.
Merci beaucoup Clara Alibert, on continuera de suivre l'action du Secours catholique sur ce terrain-là. Merci d'être venue avec cette proposition qui a ouvert nos horizons ce matin.
Et dans un instant, on va poursuivre toutes ces idées, toutes ces propositions pour inventer le monde de demain. C'est un gros sujet, gros dossier. On accueillera de nombreux invités également entre 10h et 11h. On va accueillir également notre nouveau fil rouge. On accueillera également Ingeborg et Francine au 04 72 38 20 23 qui vont patienter un petit peu au standard. Vous pouvez continuer de nous envoyer vos propositions par mail à direct@rcf.fr. Et puis bien sûr dans le groupe Facebook, je pense donc j'agis. Je vous dis à tout de suite.